La meilleure défense de la démocratie, ce sont ses lois. Mais si l'on vient nous attaquer, chaque citoyen doit se battre comme un soldat.
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire pour le deuxième épisode de notre série consacrée cette semaine à la naissance en Grèce de la démocratie. Les Athéniens ont-ils inventé la démocratie? C'est la question à laquelle nous tentons de répondre cette semaine avec l'historien Vincent Azoulay, spécialiste de la Grèce antique. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment en 507 avant Jésus-Christ, l'homme politique grec Clisthène a initié à Athènes des réformes qui vont amener à la création de la démocratie, une véritable révolution. Il faut imaginer la scène. Nous sommes à Athènes au 5e siècle avant notre ère. Des milliers d'hommes, tous citoyens, montent sur la Pnyx, une colline au centre de la ville, située à l'ouest de l'acropole. C'est là, en plein air, que se réunit l'Ecclésia, l'assemblée souveraine des citoyens. Pour la première fois, semble-t-il, dans l'histoire de l'humanité, tous les citoyens mâles, âgés de plus de 18 ans, ont le droit de voter, vote à main levée, et de participer au débat sur les propositions de loi qui ont été préparées par le Conseil de la Boulée. La Pnyx a été choisie car elle est plus calme que l'Agora, la principale place publique d'Athènes, située en contrebas. Suivant un rite immuable qui se répète 40 fois par an, les milliers de citoyens qui ont été appelés à se réunir ce jour-là arrivent très tôt le matin, avant même le lever du soleil. Certains viennent de la campagne et ont dû marcher de nuit pour être à l'heure. Sur les 40 000 citoyens que compte Athènes, seuls 5 à 6 000 font le déplacement régulièrement. Pour justement inciter ceux qui seraient tentés de ne pas se déplacer ou d'arriver en retard, on finira par créer une indemnité, le mistos, qui n'est délivré qu'aux 6 000 premiers arrivants. On imagine la cohue au pied de l'escalier qui monte à la Pnyx. Une fois en haut de la colline, les citoyens s'assoient en demi-cercle, à même la pierre ou par terre, pour écouter les orateurs qui, en face d'eux, vont prendre la parole. Avant que la séance ne commence, on procède à des rites religieux, le sacrifice d'un animal, puis une purification du lieu. Enfin, un héros, sorte de maître de séance, s'adresse d'une voix forte à l'assemblée pour prononcer la phrase rituelle « Qui veut prendre la parole ?» Cette question n'a l'air de rien. En réalité, elle est d'une audace incroyable, révolutionnaire même, puisqu'elle dit que n'importe quel citoyen, qu'il soit riche ou pauvre, puissant ou non, instruit ou pas, peut, s'il le désire, prendre la parole pour participer aux débats et aux décisions politiques. Dans une pièce de Ripide, Les Suppliantes, le personnage de Thésée fait l'éloge de la démocratie athénienne et la prise de parole fait partie de ses qualités, au même titre que l'égalité de tous devant la loi. Pour un peuple, dit Thésée, il n'est rien de pire qu'un tyran. Sous ce régime, il n'y a pas de loi faite pour tous. Un seul homme gouverne et la loi, c'est sa chose. Donc, plus d'égalité. Tandis que sous l'empire de lois écrites, pauvres et riches ont les mêmes droits. Le faible peut répondre à l'insulte du plus fort, et le petit, s'il a raison, vaincre le grand. Quant à la liberté, elle est dans ces mots « Qui veut prendre la parole ?»
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
Voilà comment Périclès décrit la démocratie.
« Comme les choses dépendent non pas du petit nombre, mais de la majorité. » Le nom que nous donnons à notre régime politique est démocratie. La loi fait à tous la part égale. Tandis que les titres, si l'on se distingue en quelques domaines, ce n'est pas l'appartenance à une catégorie, mais le mérite qui vous fait accéder aux honneurs. Inversement, la pauvreté n'a pas pour effet qu'un homme, pourtant capable de rendre service à l'État, en soit empêché par l'obscurité de sa condition.
Dans les faits, il est probable qu'à Athènes, les citoyens les plus timides, les plus modestes dans tous les sens du terme, aient souvent laissé la parole aux citoyens plus brillants, plus instruits, plus sûrs d'eux. Et quand un paysan ou un artisan potier ose tout de même s'exprimer, il arrive que le public ricane. Aristophane, l'auteur de théâtre par exemple, se moque du manque d'instruction de certains orateurs. Cette assemblée de l'Ecclésia n'a en effet rien d'une sainte messe. Les hommes crient, discutent, s'interpellent, rigolent. Et quand un orateur s'adresse à eux, il leur arrive de l'applaudir bruyamment ou au contraire, encore une fois, de se moquer de lui, voire pire, de l'insulter. Le philosophe Platon, qui était un grand ennemi de la démocratie, n'a pas de mots assez durs pour dénigrer cette assemblée bruyante, désordonnée, chahuteuse, manquant de sérieux. Dans son livre « La République », Platon compare la démocratie à un navire où tous les passagers voudraient être capitaines alors qu'ils ne connaissent rien à la navigation. À ses yeux, en démocratie, les décisions importantes sont prises par des gens qui n'y connaissent rien ou qui sont manipulés par des orateurs habiles qui flattent leurs désirs au lieu de leur dire la vérité. Pour Platon donc, la démocratie, c'est la dictature de l'ignorance. C'est vrai a priori que 5 à 6 000 citoyens qui se réunissent en plein air pour discuter des lois et les voter, on imagine le grand bazar que cela devait être. Et pourtant, force est de le constater, ce système démocratique a fonctionné pendant plus de 2 siècles à Athènes. Vincent Azoulay, la révolution démocratique d'Athènes, est-ce que c'est sa plus grande originalité, cette assemblée des citoyens ?
C'est l'une de ses plus grandes originalités. Le fait effectivement de s'assembler, mais au-delà de délibérer ensemble. Il ne suffit pas de s'assembler, il ne suffit pas d'être ensemble, il ne suffit même pas de parler. Il faut organiser.
Il faut s'écouter d'abord.
Il faut s'écouter et il faut organiser la délibération. Et c'est là où Platon est de mauvaise foi, parce que les Athéniens ont pris grand soin à organiser la délibération, à aussi évacuer toute une série de sujets techniques qui sont votés d'un bloc, de façon qu'on aille directement au cœur des choses, et là, qu'il puisse y avoir des points de vue contradictoires, extrêmement discordants, mais qui sont organisé dans une délibération qui est menée par les prytanes, c'est-à-dire la direction tournante du conseil, de la boulée. Et tout cela permet une qualité de délibération, permet des votes la plupart du temps unanimes et qui, bien sûr, sont contestables, et l'Assemblée peut même revenir sur certaines de ces décisions, mais qui, effectivement, ont été extrêmement fonctionnelles et ont fait d'Athènes une puissante cité.
Est-ce qu'on a des récits de ces assemblées, d'Ecclésia ? Est-ce que ce sont toujours les mêmes qui parlent, en fait, dans les faits ? Ou est-ce qu'il y a vraiment un roulement de citoyens qui s'expriment ?
Alors, il y a un roulement, on le sait grâce aux inscriptions, avec le nom des proposants, ceux qui proposent des décrets ou des lois au 5e siècle. Et on voit une certaine diversité. Après, malgré tout, il faut quand même des compétences rhétoriques pour pouvoir... comme ça, vous l'avez très bien dit, s'adresser à un peuple qui est remuant, alors sur une colline en plein air, sans micro, avec des gens qui rigolent, qui palabrent, qui écoutent à moitié, souvent, dit Aristophane. Donc il faut, malgré tout, un organe vocal et une capacité rhétorique pour tenir le peuple.
Mais est-ce qu'il y a, vous pensez, des paysans, des artisans pauvres qui s'expriment aussi ?
Il y en a, mais c'est vrai que malgré tout, si le principe est l'iségoria, c'est-à-dire le droit égal de tous à prendre la parole, en réalité, malgré tout, il y a une certaine spécialisation et des hommes qui viennent à l'Assemblée et qui prennent la parole sur la béma, sur le piédestal où l'orateur se juge plus qu'à leur tour.
Il y a donc la boulée et il y a aussi l'ailier qui est un tribunal populaire qui est très original.
Oui, tout à fait. Peut-être même que j'y verrais la principale originalité de la démocratie athénienne. Il y a effectivement cette délibération collective, mais il y a aussi le fait de mettre sous contrôle notamment les élites politiques, ceux qui précisément s'adressent plus que les autres à l'Assemblée, ceux qui se présentent au tirage au sort ou à l'élection pour être magistrats. Ils sont jugés dans les tribunaux par toute une série de procédures qui les visent explicitement et qui permettent de contrebalancer le pouvoir qu'ils exercent par une responsabilité éminente.
Mais ce tribunal, ce n'est pas un tribunal où on juge des crimes ou des délits.
Alors, il y a bien sûr un tribunal où on peut juger des crimes, et il y a des affaires privées, même si l'aréopage garde la main mise sur les affaires de meurtre. À l'ailier, on va de la, des délits du quotidien jusqu'au, à la grande criminalité politique et aux accusations de trahison. On juge un peu tout. Mais c'est vrai qu'il y a cette spécificité de l'ailier des tribunaux populaires qui est de juger les élites, et notamment les plus puissants dans la cité. Et ça permet véritablement une domestication des hommes politiques inédite dans l'histoire.
Donc oui, cet objectif principal, c'est ça, c'est le contrôle des élites en permanence.
Tout à fait.
Avec une rotation des charges.
Alors oui, c'est-à-dire que, disons que la démocratie fonctionne sur deux pieds, d'une certaine façon. On essaye d'empêcher l'accumulation du pouvoir, donc on fait que les mandats, notamment des magistrats, soient les plus courts possibles, qu'on ne puisse pas être plusieurs fois magistrat dans la même fonction, à quelques exceptions près. Et puis parce que malgré tout, on doit donner à certains hommes éminents des charges plus lourdes que les autres, eh bien on les contrôle. Donc il y a à la fois rotation des charges, on empêche l'accumulation du pouvoir, et quand le pouvoir s'accumule malgré tout, on contrôle.
L'historien et géographe grec Hérodote, qui a vécu donc au 5e siècle, à la grande époque, a écrit aussi, lui, un bel éloge à la démocratie. Il fait l'excellence, il parle de l'excellence de l'égalité. Et bon, il parle plutôt à ce moment-là des réformes de Clisthène, mais son propos me semble valable pour le 5e siècle aussi. Il écrit « Dans la servitude, les Athéniens se conduisaient volontairement en lâches, pensant qu'ils travaillaient pour un maître. Au lieu qu'une fois libérés, chacun trouvait son propre intérêt à accomplir sa tâche avec zèle. C'est peut-être ce que Jacqueline Romini, qui était aussi une grande helléniste, une spécialiste de la Grèce, appelle l'élan démocratique. Sorte que la démocratie, ça donne une sorte de fierté d'être citoyen, de participer à la vie de son pays.
Oui, et puis il y a des choses pour lesquelles se battre. Un contenu substantiel à la citoyenneté, des avantages. Donc, quand il y a de véritables avantages à être citoyen, il y a des choses à défendre. Et donc, ça vaut le coup de risquer même sa vie.
Merci Vincent Azoulay. Dans le prochain épisode, nous parlerons de ceux qui, dans la démocratie athénienne, ne sont pas citoyens, les femmes, les étrangers et les esclaves, qui représentent tout de même 90% de la population.